Donc, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau cours qu'on va prendre à partir de ce soir. Pandémie oblige, on donne nos enseignements via les médias sociaux. Donc, mais nous ne manquons pas de prier et d'avoir cette confiance-là en notre Dieu, que lui sait exactement ce qu'on fait, ce qu'on traverse, comment on fait les choses. Donc, faisons les choses pour le Seigneur, faisons-les de qualité, faisons-le pour honorer Dieu en toutes choses. Donc, Seigneur, moi et ton peuple, Seigneur, ceux qui se sont assemblés pour cet enseignement, cette réunion, nous livrons, Seigneur, dans tes mains, te demandant miséricorde sur chacun d'entre nous, ô Dieu. Car tu es le Dieu de miséricorde. Donc, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, accorde-nous un bon temps, Seigneur, d'études. Accorde-nous, Seigneur, un temps enrichissant où on va pouvoir regarder ta parole et s'enrichir par elle, se construire notre homme intérieur par l'apprentissage de ta parole. Je remets, Seigneur, tous les auditeurs ainsi que moi-même entre tes mains. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, on a terminé le cours sur le livre de l'Apocalypse et je vous avais dit que naturellement, le livre de l'Apocalypse avait été un livre complexe. Avait été un livre, voire peut-être même difficile pour certains. Et je vous avais dit qu'on prendrait après un autre livre qui a un peu plus d'historicité dedans, mais par contre qui n'est pas de nature comme telle prophétique, donc peut-être plus accessible pour certains d'entre nous. Et on va prendre le livre des Actes des Apôtres. Si l'Apocalypse, et ce n'est pas ici, l'Apocalypse est le livre de la fin. L'Apocalypse nous donne la fin de l'Église sur Terre. Eh bien, le livre des Actes des Apôtres, lui, quant à lui, nous donne le début de l'Église sur la Terre. Nous donne les premiers soubresauts de cette Église-là. On va le voir tantôt, le livre des Actes des Apôtres couvre environ une trentaine d'années. Pourquoi étudier le livre des Actes des Apôtres? On peut dire tout simplement parce qu'il est dans notre Bible et tous les livres de notre Bible méritent d'être étudiés. C'est tout à fait d'accord. Mais j'ajouterais néanmoins qu'il est indispensable ou quasi indispensable de connaître assez bien le livre des Actes pour comprendre les lettres de Paul, pour comprendre les autres épîtres. Le message des lettres de Paul, pour mieux le comprendre, si on est bien imprégné du livre des Actes des Apôtres, on va avoir une compréhension plus facile. C'est-à-dire que si on regarde les différents voyages de Paul, on va retrouver dans quelles circonstances Paul s'est retrouvé à tel ou tel endroit et dans quelles circonstances il a écrit certaines épîtres. Et à des endroits bien précis lors de notre étude, on va s'arrêter au cours des temps qui viennent, voire des mois qui viennent, on va s'arrêter à certains endroits, on va dire, à ce moment-ci, c'est là que Paul a rédigé, mettons, la lettre à l'église d'Éphèse, qu'on appelle l'épître aux Éphésiens, ou à la lettre à l'église de Colosse, qu'on appelle l'église des Colossiens, et ainsi de suite. Donc, dans mon introduction, là, je vous ai fait un petit commentaire, pourquoi on devrait étudier le livre, quelle est son importance. Ce livre-là fait le lien, si vous voulez, entre les quatre évangiles et les épîtres. C'est le livre qui fait le lien entre ça. Et on va regarder ce soir un peu, on va mettre la table à l'étude du livre. On va regarder un peu l'armature du livre des Actes des Apôtres. On va regarder un peu ce qui concerne l'Église naissante, quel ordre cette Église-là a reçu, à quel ordre elle a-t-elle répondu. Et cet ordre-là, on va s'apercevoir, venait du Seigneur elle-même. Donc, le livre des Actes constitue en fait l'histoire de l'Église naissante selon l'ordre que le Seigneur a donné dans Matthieu chapitre 28. Si vous tournez Matthieu chapitre 28, on va prendre des versets 16 à 20. Il est écrit, « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Dans le ciel et sur la terre. Même en ces temps-là qu'on vit, qui sont plus difficiles, tout pouvoir a été donné au Seigneur sur le ciel, dans le ciel, mais aussi sur la terre. Allez, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, verset 20, sur lequel je veux insister un peu, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer et enseignez-leur à obéir, à observer ce que j'ai prescrit. Je dis souvent à des personnes avec qui je dois échanger, des fois pour de la relation d'aide ou des conseils tout simplement personnels, il faut faire la différence. Des fois, je vais dire aux gens, c'est moi qui te donne mon avis. C'est un avis personnel. Quelquefois, je vais dire aux gens, c'est la parole de Dieu qui te dit. La parole de Dieu dit cela. La parole de Dieu nous donne des prescriptions. C'est comme un peu si vous iriez chez le médecin et il vous donne une prescription. Tant que vous avez la prescription en main, ça ne vous fera aucun bien. Il faut aller à la pharmacie. Il faut faire remplir cette prescription-là. Quand on vous a donné l'onguent ou les comprimés à prendre, même si vous avez la bouteille en main, même si vous regardez, vous dites, ils ont l'air vraiment bonnes. C'est une bonne prescription que m'a donné le médecin. Ils ont l'air vraiment efficaces, les pilules en question, les comprimés en question. Tant que vous ne les avez pas ingérés, ils ne changeront rien à votre condition. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est l'histoire qu'on va voir dans les Actes des Apôtres. Le début de cette Église-là, comment cette Église-là enseigne à observer une prescription que Dieu a donnée. Si vous tournez dans Luc, Évangile de Luc au chapitre 24, là, je suis en train de faire la mise en place là, pour ceux qui vont se joindre à nous plus tard, comme ça, ils pourront écouter l'ouverture du cours des Actes des Apôtres. Luc, chapitre 24, les versets 44 à 49, il dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Donc, dans les Actes, c'est un témoignage qui est rendu. « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On place là, pourquoi les actes des apôtres font le lien. Christ leur a donné un ordre d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Ensuite de ça, il leur rouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit à cette époque-là. Et il va le dire au verset 47 de Luc 24, afin qu'ils prêchent la repentance puis le pardon des péchés à toutes les nations, commencer par Jérusalem. Dans Jean, chapitre 14, verset 25-26, Jésus va dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Non seulement Jésus le dit dans Luc 24, verset 45, il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, mais ici, dans Jean 14, verset 25-26, il nous dit que l'Esprit de Dieu qui est venu le jour de la Pentecôte est venu donner une puissance aussi pour qu'ils puissent enseigner, aussi l'Esprit est là pour rappeler aux disciples tout ce que Jésus avait dit. Si vous voulez, c'est une explication rapidement faite du cœur du message qui est proclamé dans les Actes des apôtres. Donc, on trouve dans le livre des Actes, relate, si vous voulez, les 30 premières années de vie de l'Église, c'est-à-dire la formation de l'Église, les problèmes que l'Église a rencontrés, comment elle a réglé ces problèmes-là, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le nombre des disciples, des croyants, augmentait, eh bien, le nombre des problèmes augmentait. Il y a déjà un pasteur qui m'a déjà dit, une petite église, petit problème. Grande église, grand problème. Okay? Il ne disait pas ça parce qu'il se plaignait qu'il y avait des plaintes à formuler à propos de son église, mais il me disait tout simplement que l'église de Dieu est une église, tant que Christ n'est pas venu la chercher pour en faire son époux, est constituée d'hommes, de femmes qui viennent des fois d'un peu partout, avec des mentalités différentes, avec des visions différentes. Il faut, en tant que pasteur, harmoniser l'Église pour que l'Église soit vraiment l'Église de Dieu, c'est-à-dire qu'il y ait une communion d'amour fraternel entre les bien-aimés, qu'il y ait une entente entre les différentes parties de l'Église, entre les différents ministères de l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église est toujours 100% d'accord, les membres les uns avec les autres, excepté qu'on devrait savoir se soumettre les uns aux autres, chacun dans nos champs de compétences, chacun à l'endroit où Christ nous a placés dans l'Église. Christ nous a placés dans l'Église à des endroits bien précis. Et l'Église, c'est son corps. Il nous a placés des endroits différents. Et je ne vous ferai pas la nomenclature là, du corps, là, comme Paul le fait dans Corinthiens, mais nous savons que nous formons un corps. Et dans l'Église, Dieu a placé. Les gens ne se sont pas placés, même si les gens pensent qu'ils se sont placés. Dieu a placé le corps pour que le corps soit fonctionnel. C'est certain qu'il peut y avoir des divergences d'opinion, des visions différentes, des conceptions différentes concernant certaines choses. Et il y en avait dans le temps des premiers disciples, dans le temps des Actes des apôtres, il y avait des visions différentes, il y avait des mentalités différentes. Au fur et à mesure que l'Église grandissait et que l'Église prenait son essor, que l'Église s'est étendue dans les nations, eh bien, certaines conceptions ont voulu pénétrer l'Église. Certaines choses que l'Église originelle, pour dire juive, voulait retenir, qui ont été obligées de lâcher prise. Et on va voir comment, au cours de notre étude des Actes des apôtres, on va voir comment, dans ces 30 premières années-là environ de vie de l'Église qui nous sont rapportées ici dans le livre des Actes, comment Luc nous dit les choses tout à fait de façon transparente, nous dit de façon tout à fait clairement comment ils ont réussi à garder l'unité de l'Église, comment ils ont procédé pour régler certains problèmes qui allaient surgir dans cette jeune Église-là. Non pas les mettre en dessous du tapis, non pas faire comme si les problèmes n'existaient pas, mais trouver des solutions concordantes avec Dieu, avec la parole, avec les Écritures qu'eux avaient en main. À plus forte raison, nous qui possédons le Nouveau Testament et l'Ancien, comment ils ont réussi à mettre en place une Église qui a rayonné dans le monde entier, une Église que la parole de Dieu va nous décrire dans Actes des Apôtres, qui était un cœur, une âme. Comment ont-ils fait? On va regarder à la mesure où on va avancer, comment la grande commission qu'on vient de lire dans Matthieu 28 s'est accomplie, comment ils ont obéi, comment Dieu s'y est pris pour donner certaines directions qu'eux ne voulaient pas prendre, et comment l'Esprit de Dieu les a pris et les a mis dans un chemin dans lequel ils n'allaient pas s'écarter. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, verset 7, et je le prends pour ouverture, mais on va commencer naturellement au chapitre 1. Louant Dieu, ils trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à l'Église, et le Seigneur ajoutait à l'Église. On peut avoir les meilleurs programmes d'évangélisation. Il faut avoir des programmes d'évangélisation. Je prends des programmes d'évangélisation. À l'Église, avant la pandémie, on avait mis en place des programmes pour évangéliser, rappelez-vous, le dimanche soir. Ensuite, on faisait un café rencontre. J'avais d'autres projets qui mijotaient, qui bouillonnaient un peu en moi, que je voulais mettre en place. Dieu voulant, se mettront en place à un moment donné pour réussir à atteindre notre quartier, réussir à atteindre nos familles, réussir à atteindre nos compagnons de travail et ainsi de suite avec la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la repentance, comme on a lu tantôt. Donc, ça prend des moyens d'évangélisation. Mais ça se fait bien une chose. C'est Dieu qui ajoute à l'Église. C'est Dieu qui ajoute à l'Église. Le meilleur programme d'évangélisation sans l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. Ne peut rien faire. Donc, les apôtres, dans les Actes des apôtres, ont mis en œuvre l'ordre que Jésus leur avait donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, cette Église-là naissante a réussi à surmonter les problèmes qui menaçaient de la détruire ou de l'éloigner de sa mission divine. Jésus avait ordonné, comme je vous ai dit, de faire de toutes les nations des disciples. Le livre des Actes s'ouvre sur la dernière apparition de Jésus à ses disciples. Ça s'ouvre là-dessus, le livre des Actes. Je suis en train de placer les choses. Tantôt, je vais terminer, là, je vais mettre le squelette. En ce sens, on va bâtir là-dessus. L'Église devait être établie sur terre grâce à quoi? Au témoignage que les disciples allaient rendre de Jésus, le Messie, par la puissance de l'Esprit qu'ils allaient recevoir. Les actes qui ont été faits par Luc ne donnent pas tous les détails de l'expansion de l'Église, mais plutôt en donne les grands principes généraux. D'ailleurs, les Actes des apôtres n'ont pas, On pas 200 chapitres, là, soyons clairs. Je vous ai dit que ça couvrait environ 30 et quelques années de vie de l'Église. Donc, on sait qu'on n'a pas tout ce qui s'est fait, mais Dieu a permis qu'on ait là-dedans les grands principes généraux de la marche de l'Église. Le jour de la Pentecôte tient une importance particulière dans le livre des Actes, parce que c'est à partir de là que se fait l'expansion de l'Église, et pour ça, pour deux raisons. La première, c'est que le Saint-Esprit a donné la puissance du témoignage et son efficacité. Et la deuxième chose, qui est non négligeable, très importante, des Juifs qui provenaient de 10 provinces romaines et de 5 provinces non romaines étaient présents ce jour-là de la Pentecôte et ont essaimé, eux autres aussi, l'Évangile. Le texte des Actes ne précise pas les détails, mais il nous dit en fait certaines nations qui étaient là. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, c'était des Juifs de Mésopotamie, il y en avait d'Égypte, de Cyrène qui étaient présents, ont sûrement retourné, eux, chez eux, pour y annoncer l'Évangile. Ils ont repris leur vie, leurs activités coutumières, avec la différence qu'ils avaient reçu Jésus comme Seigneur Sauveur personnel et qu'ils avaient reçu la puissance de l'Esprit pour témoigner. La parole de Dieu ne nous dit pas si on restait à Jérusalem, on peut facilement penser logiquement que non, ils ont repris leur activité normale, mais avec cette grande différence-là, et eux-mêmes ont commencé à préparer le terrain avant même que Paul se rende dans ces contrées-là. Quand je dis souvent aux personnes, l'évangile, l'évangélisation, la conversion d'une personne n'est généralement pas l'affaire d'un seul individu. Dieu fait entrer plusieurs personnes dans le même travail. Généralement, on parle de la conversion généralement d'un seul individu. De même, ici, Paul n'a pas tout fait le travail. Il y a des gens qui ont entendu l'Évangile et on va voir que ces gens-là ont répandu l'Évangile, ont préparé certaines choses sans savoir qui est en train de préparer le chemin. On peut le voir avec la persécution d'Étienne aussi. Et je vous dis là, que je mets des choses en place, c'est ce que je fais. Si vous tournez dans Actes, au chapitre 11, les versets 19 et 20. On va voir qu'après le meurtre d'Étienne, lorsque Paul n'était pas converti, des hommes de Cyrène, de Chypre, ont été à Antioche puis ont annoncé l'Évangile. Mais ils l'ont annoncé aux Grecs aussi. Verset 19 du chapitre 11. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche. » N'oubliez pas, Antioche, la grande ville, pas Antioche de Pisidie, mais la grande ville, Antioche, était l'église mère de Paul. Paul, qui est appelé Saul, ou Saül, dépendant comment est-ce que vous le prononcez, avec le tréma ou sans le tréma, probablement que Saul était appelé Saül en mémoire du roi Saül, mais ils l'ont appelé Saul, pas de tréma, OK, soyons clairs, parce qu'ils étaient tous les deux Benjamites, et ce roi-là est Paul, de son nom grec Paul. Son église mère à Paul, c'était Antioche, c'était la grande ville d'Antioche, sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Et on nous dit ici que des Juifs qui avaient été dispersés ont annoncé l'Évangile en Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant seulement la parole aux Juifs. L'Église, elle était sectaire encore. Mais regardez bien, verset 20, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle de Jésus. » Donc, on voit que l'Évangile cheminait. Ces gens-là ont entendu dans Actes. Pourquoi je suis en train de poser ces assises-là? pour vous montrer que le travail, tout le travail qui va se faire dans Actes des Apôtres n'est pas l'affaire d'un homme. On dit que Paul, et c'est mon avis aussi, mon humble avis, est probablement l'apôtre le plus productif qu'il y a eu, l'apôtre qui a étendu le plus l'Évangile. Mais par contre, à la décharge des autres apôtres, on nous raconte peu ou pas. Peut-être que les autres apôtres, on ne sait pas, mais Dieu a choisi de nous donner, de suivre la vie de Paul, et on a pu voir un ministère très fructueux avec des épîtres, avec des enseignements très profonds, très riches. Paul avait une grande révélation du Dieu qui servait. Et lui-même va le dire, il ne le dira pas par orgueil, mais il va le dire lui-même dans une épître en particulier aux Corinthiens. Il va dire, vous pouvez vous imaginer, vous considérer l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et force est d'admettre que oui. OK? D'accord. Donc, l'Église a commencé ses débuts lors de cette annonce-là où les gens sont retournés dans leurs pays respectifs, des gens qui venaient de partout des pays d'alentour, d'au moins 15 provinces recensées, il y en avait peut-être plus. Ces gens-là ont entendu le message que Pierre a donné. 5000 personnes se sont converties de ces gens-là. Et ensuite de ça, le travail est à commencer. D'ailleurs, l'Église de Rome, dont on dit, où Paul a fini sa vie, où on dit que Pierre était évêque, quoique je me garde une réserve, et je vous expliquerai au cours des études pourquoi, a été probablement fondée à partir du ministère des gens qui sont retournés là. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 2, verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, qui étaient venus de Rome, et prosélytes. Tantôt, on va regarder c'est quoi un prosélyte. Tantôt, je vais vous donner quelques petites définitions pour ne pas avoir à vous les redonner au cours de l'étude. C'est ma mise en place, là. Juifs et prosélytes venaient de Rome. Donc, même jusqu'à Rome, qui était assez éloigné, l'Évangile faisait son chemin à partir de là. C'est sûr que les gens qui suivaient Paul et Paul lui-même ont donné vraiment l'impulsion. Mais je veux vous dire et je veux que vous réalisiez comme il se doit que Dieu se sert de toutes sortes d'instruments pour que le royaume de Dieu avance. On sait, par contre, peu de choses de l'Évangile à l'est de l'Empire romain, mais le verset 9 du chapitre 2 de Actes des Apôtres nous dit, à l'est, il y avait les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. On parle de l'Asie mineure, là, ici. Okay? La Mésopotamie, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ils ont entendu l'Évangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem, comme je vous ai expliqué. Il y avait aussi des Arabes, la plupart, eux, de province romaine. Et c'est pour ça que des versets 9 à 11 de Actes 2, il nous est donné les noms des différentes contrées. Je vais vous relayer et je vais me rendre un verset plus loin que Adam, je vous ai lu le 9. Le 10, et là, je vais faire 9, 10, 11. OK? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, verset 11 va nous dire, Crétois et Arabes, on nous rajoute encore des gens, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Les merveilles de Dieu, ces endroits-là qui nous sont nommés ici, l'église de Crète, d'autres églises qui nous sont nommées à Rome, on a l'épître aux Romains, c'est sûr. C'est des églises ou des endroits qui sont évoqués plus tard par Paul, lors de ses voyages. Où Paul va faire ses voyages, il va parler de ces endroits-là. Je veux juste vous dire que ces endroits-là, le Seigneur avait permis que le terrain se fasse préparer. Maintenant, la division générale du livre des Actes. Ensuite de ça, il va me rester tout simplement à vous donner les définitions et on va pouvoir rentrer dans le livre des Actes. Là, j'ai posé le cadre. Là, je vais vous donner la division générale du livre, c'est-à-dire comment on peut diviser le livre, comment on peut le regarder de façon à optimiser notre étude. Et c'est de cette façon-là dont on va l'étudier aussi. Les chapitres 1 à 5 des Actes des Apôtres, les chapitres 1 à 5 traitent principalement de la conversion des Juifs. L'Église est principalement juive. Et c'est un problème. Et vous allez voir, ça allait être un problème. L'Église était principalement juive. Jésus avait donné un ordre clair, là, un ordre qu'il n'avait pas tout à fait bien compris. Sinon, Pierre n'aurait pas eu la vision de la nappe. Là. Il n'avait pas tout à fait compris ce qu'on a lu tantôt. Là. Quand il va lui dire dans Luc, quand il va lui dire aussi dans Matthieu 28, allez, partout le monde, faites de toutes les nations. Pas juste des Juifs, de toutes les nations, des disciples. Mais des chapitres 1 à 5, eh bien, ce n'est pas toutes les nations qui sont représentées là. Sauf ceux qui étaient partis en ayant entendu le message de Pierre. Mais les apôtres, ça n'enlevait pas leur responsabilité à laquelle Jésus leur avait donnée. Et on voit que dans les 5 premiers chapitres du livre des Actes, l'Église est principalement juive. Les conversions sont juives. Dans les chapitres 6 à 12, on nous présente un autre groupe, les Hellénistes. Tantôt dans les définitions, je vais vous donner qui sont les Hellénistes. Mais les Hellénistes, c'était des Juifs, si vous voulez, convertis à la culture grec, mais c'était des Juifs. Ainsi, les chapitres 6 à 12 nous donnent l'expansion de l'Évangile aussi chez les gentils. On va regarder qui sont les gentils. Je vais regarder le terme, si vous voulez bien, gentil, tout au long de mon étude, pendant les mois qui vont venir. On va garder le terme gentil, parce que vous êtes gentil, mais il y en a que ça heurte, et je ne sais pas qui j'ai l'autre côté de l'écran, disons ça comme ça, quels auditeurs sont là, et quand on nomme le terme païen, un gentil et un païen, c'est la même chose, mais dans notre civilisation moderne, le terme païen revêt une connotation plus négative que gentil. Donc, on va employer, à cause que c'est diffusé, je ne sais pas, à 10, 15, 20, 25, 30 personnes, que, je ne sais pas qui est de l'autre côté des ondes, mais j'utiliserai, moi, le mot gentil, principalement, parce qu'à cause du terme païen à connotation généralement négative. Les gens disent païen, c'est un inculte, ils ne croient en rien ou quelque chose comme ça. Tandis que ce n'est pas ce que ça voulait dire dans le temps. Okay? On va trouver aussi les Samaritains. Les Samaritains étant des Juifs qui s'étaient alliés par mariage, qui craignaient le Dieu d'Israël, mais qui s'étaient alliés par mariage à d'autres nations, principalement, et je vous le dis vite comme ça, on le reprendra peut-être plus tard, sous la déportation de Nebuchadnezzar, là, quand il a amené des Juifs, ces Juifs-là, revenus sous Zorobabel et ensuite de l'Exode, sont revenus, avaient fait des mariages mixtes. Et vous allez voir quand vous lisez les 4 évangiles que les Juifs, peu, qui se considèrent à peu, c'est-à-dire juifs mariés avec une juive, considéraient ces demi-juifs-là un peu comme une sous-culture. D'ailleurs, étaient tellement en porte-à-faux avec eux qu'ils ne passaient pas. les Juifs par des bourgs de Samaritains. Et les Samaritains avaient pas. Il y a des raisons politiques, il y a toutes sortes de raisons là, pour lesquelles je ne m'étendrai pas ce soir, pour lesquelles les Juifs et les Samaritains avaient peu de relations. Un se considérait supérieur à l'autre et l'autre lui rendait bien, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, dans les chapitres 6 à 12, on retrouve ces groupes de personnes-là. Les chapitres 13 à 15, eux, concernent l'évangélisation principalement des gentils habitants les provinces situées au-delà de la Palestine, la Syrie, mais l'approche, on va regarder, l'approche reste tout de même étroitement liée aux synagogues. Dans le chapitre 16, les gentils vont prendre maintenant une place plus importante dans la direction et dans la propagation de l'Évangile. On met plus en emphase sur eux. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne faisaient pas le travail, mais ça veut dire que cette portion-là nous relate beaucoup plus la place des gentils dans l'Église de Dieu. Les chapitres 17 à 20 nous montrent Saul ou Paul, si vous aimez mieux. Et là, c'est les voyages missionnaires, même si ça commence dès le chapitre 13, là, mais Paul va commencer les voyages missionnaires. Le point culminant, le chapitre 17, où on va voir la structure, le fondement de l'Église, où les structures que Paul met en place vont devenir prédominantes. Ça prend une structure dans une Église. C'est pourquoi, pour rien, que l'Église est comparée à un corps. Votre corps a une structure. Vous savez, moi, j'ai soif, j'ai une structure. Mon épaule est attachée à mon corps. Mon avant-bras plie, ma main est assez mobile pour saisir ça et ça me permet de m'abreuver. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure en place pour que je puisse m'abreuver. Une église, c'est un corps spirituel, certes. C'est un corps avec une structure. Donc, et je sais qu'il y a des gens des fois qui disent « Ah non, moi c'est moi puis Jésus. Jésus et moi puis Jésus. » Je n'ai pas une bonne nouvelle pour toi à ce niveau-là. Tu n'es pas l'Église. L'Église, c'est un ensemble de croyants. Un ensemble de croyants. Tu n'es pas une petite Église puis une petite Église à côté. L'Église, c'est le corps de Christ réuni. Les chapitres 21 à 28, maintenant, pour terminer la division générale du livre, sont les chapitres où on va voir où il y a un complot contre Paul. Il y a l'arrestation de Paul. L'apparition de Paul devant les tribunaux avec les différents témoignages qu'il y a à rendre devant les grands de ce monde. Cela implique des gouverneurs. Et ensuite de ça, Paul est dirigé vers Rome comme captif où on voit où Paul va pouvoir louer un logement pour la propagation de l'Évangile dans cette grande métropole-là païenne qu'est Rome. Centre de la décadence puis des orgies romaines. Donc, ça, c'était pour les définitions. On a vu le cadre. Là, je vous ai donné la division générale du livre. Maintenant, quelques définitions et ensuite de ça, peut-être que pour ce soir, le plus ardu va être passé. OK? Donc, les définitions. Je vais en retenir quatre principalement. Les autres, je vous les donnerai à mesure qu'on va avancer. Quatre, je crois que ça va être assez. J'ai pris les quatre qui sont les plus concernés par le livre des Actes des Apôtres. Les Hellénistes, je vous en ai parlé tantôt. C'est celui qui, bien qu'il n'étant pas grec, parlait le grec, souvent avait des coutumes grecques. Ce terme-là s'applique surtout aux Juifs qui vivaient en grec, qui avaient adopté la langue, les coutumes et la mentalité grecque. Les gentils, je vous l'ai dit tantôt, terme que je vais employer généralement quand on va parler des noms des non-juifs, c'est les païens ou les non-juifs, tout aussi simple que ça. Les Samaritains étaient, comme je vous ai expliqué tantôt, là, je vais vous donner peut-être un ou deux petits détails de plus pour un peu faire un tableau plus complet de qui étaient les Samaritains. Les Samaritains étaient des demi-juifs, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire une union entre un juif et un non-juif, soit une juive avec un non-juif ou un juif avec une non-juive, avec quelqu'un d'une autre race. Ce terme-là s'applique principalement à cette époque, à ceux, comme je vous ai dit, que c'est arrivé sous Nebuchadnezzar, c'est arrivé aussi sur le roi assyrien Sargon, qui est revenu de leur captivité et se sont installés dans Samarie, qui est le centre de la Palestine d'aujourd'hui. Les coutumes et surtout les rites religieux au lieu qu'on vous trouvez même quand Jésus passe, quand Jésus, rappelez-vous, s'assied au bord du puits, puis demande à une femme samaritaine de lui donner à boire, et elle dit, comment toi qui es samaritain, me demandes-tu à boire à moi? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Comment toi, un juif, tu me parles à moi qui es samaritain? On n'a rien à voir ensemble. Puis là, elle va commencer à poser certaines questions, dont elle va parler de façon indirecte des hauts lieux qui étaient en abomination aux juifs juifs. Là. Okay? Et le roi, dans le temps de là, avait fait ça pour pas que les gens de Samarie descendent à Jérusalem pour aller dans le temple pour garder son monde chez eux. Il y avait de la politique là-dedans. Mais peu importe, la chose est arrivée. Et on en voit une trace ici quand Jésus s'adresse à elle. On en voit une autre trace quand les disciples veulent passer par le bourg des Samaritains et que les Samaritains le demandent « Où est-ce que vous vous dirigez? » Ils disent « On se dirige vers Jérusalem. » Vous trouvez ça dans l'Évangile de Jean. « On se dirige vers Jérusalem. » Et si vous allez à Jérusalem, vous ne passerez pas par ici. Et là, c'est là que les deux disciples Jacques et Jean. Jean, celui, le disciple de l'amour qui est appuyé sur la poitrine de Jésus, qui va dire, Maître, veux-tu que nous commandions le feu du ciel puis qu'on les passe au feu, les Samaritains? Et Jésus de leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On va passer ailleurs. Il y avait principalement trois chemins pour aller à Jérusalem en partant de ce point précis, et dont Jésus avait voulu prendre le chemin le plus court. Les autres, ils ont dit, tu vas prendre le chemin le plus long. Les Juifs, généralement, prenaient toujours le chemin le plus long. Prenaient toujours le chemin le plus long pour ne pas rencontrer de Samaritains. D'ailleurs, c'est pour ça que vous trouvez la parabole du bon Samaritain, là, où un Juif prend un chemin et il rencontre un Samaritain. En fait, il rencontre celui qu'il ne veut pas rencontrer, là. Il se fait battre par des brigands, là. Il est laissé pour mort. On pense qu'il est mort. Il y a un lévite qui passe, puis le lévite passe tout droit. Hein, ici, je vous le donne de mémoire, là, OK? Il y a un sacrificateur qui passe, puis il passe tout droit parce qu'il s'en allait à Jérusalem, eux autres. Vous comprenez? Donc, s'il est laissé pour mort, si eux touchent à un mort, ben, ils peuvent faire exercer leur sacerdoce. Donc, ils laissent pour mort. Il y a un Samaritain aussi qui passe. Le Samaritain, celui que le Juif tombé au milieu des brigands ne voulait pas rencontrer, c'est lui qui le ramasse. C'est lui qui le met sur sa monture. C'est lui qui en prend soin. C'est lui qui paye pour son bien-être. C'est le Samaritain qui fait ça. Ceux que les Juifs ne voulaient pas rencontrer. D'accord? Donc, les coutumes, les rites religieux, les hauts lieux, les coutumes idolâtres importées de Babylone, incorporées, voire mélangées au culte de l'Éternel était courante dans Samarie, dans la région des Samaritains. Donc, on peut avoir une bonne image de la chose qui va nous aider à mieux comprendre pourquoi les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Hein? Vous trouvez ça, vous pouvez aller chercher dans Jean 4-9, que je vous parlais, la femme samaritaine. Donc, ça, c'est pour les Samaritains. Les prosélytes, Un prosélyte, c'est le terme prosélyte dans son original, ça veut dire celui qui est venu s'ajouter à. C'était la personne qui venait s'ajouter d'origine gentil, païen, qui adhère au judaïsme sans être juif. On en trouve quelques exemples. On en trouve quelques exemples. Même Jésus va en parler lui-même. Il va dire, vous courez, il va dire aux pharisiens, vous courez mer et monde pour aller faire des prosélytes. Un prosélyte, c'est quelqu'un d'une autre origine qui ne pouvait pas adhérer à tous les rites juifs. Ça devenait comme un sérieux sympathisant à la cause juive et à la religion juive. Et il pouvait se rendre jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain point, disons ça comme ça. Le prosélyte, vous trouvez dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, de la ville d'Antioche. Ils disent que Nicolas, c'est un prosélyte du judaïsme qui s'est converti au christianisme. Vous trouvez aussi dans Actes, chapitre 13, verset 43, la parole de Dieu nous dit « Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas et s'entretenèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. » Donc, on a vu quoi? Hélénistes, des Juifs qui avaient adopté des coutumes, la langue, la mentalité grecque, on a vu les gentils ou les païens, les non-juifs, on a vu les samaritains, les demi-juifs, et on voit les prosélytes des judaïsants issus d'une autre nationalité que les juifs. Là, j'ai terminé de brosser ou de mettre en place, si vous voulez, un peu l'armature de l'étude à laquelle vous vous êtes joint. Maintenant, je vais vous donner des informations sur le livre comme tel, c'est-à-dire quelques informations. Il me reste un peu plus que 10 minutes, et j'ai tiré comme d'habitude jusqu'à 5 et 10. Donc, le livre des Actes. Le livre des Actes a été écrit par Luc. Tout d'abord, avant qu'on regarde cela, j'aimerais qu'on puisse regarder le livre des Actes va à peu près jusqu'à où? C'est-à-dire, puisque les activités de l'apôtre Paul, on les retrouve principalement dans les Actes jusqu'à un suivi, jusqu'à son emprisonnement à Rome, on sait que ces activités sont connues à peu près jusqu'à l'an environ 62 de notre ère. Partant, on parle de la naissance du Christ, à peu près. Donc, après la mort du Christ, 30 ans, si vous voulez, environ 30, 32, 33 ans. Okay? Donc, on sait que le livre a été écrit à peu près, après, un peu après cette date-là, ou en même temps que cette date-là, ou colligé, mise en place, vers ce temps-là. Mais le livre omet quelque chose de très significatif. La mort de Paul ne nous est pas mentionnée. Et on sait, selon un peu l'histoire et la tradition, on sait que Paul a été exécuté à Rome, environ en l'an 64, peut-être 65 de notre ère. Mais le livre des Actes n'en fait pas mention. Si le livre des Actes omet d'en parler, c'est que le livre des Actes a probablement été rédigé avant cette date-là. Probablement début de rédaction avant, mais colligé, tout mis en place avant cette date-là. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas, pour cela qu'on ne trouve pas dans le livre des Actes, pardonnez-moi, on ne trouve pas dans le livre des Actes un fait aussi significatif que la mort du grand apôtre Paul. Il faut bien comprendre une chose. Dans l'explication que je vous donne ici, là, je ne suis pas rendu dans mon prologue encore. Mon prologue va être à partir des versets 1 à 5. Je suis en train de terminer tout simplement. Je vous ai fait, là, j'ai mis l'armature, je vous ai expliqué qui était qui, je vous ai expliqué certaines choses. Là, je suis en train de vous placer le livre dans le contexte dans lequel il a été écrit. Et maintenant, je vous donne le but du livre. Là, je vous ai expliqué un peu le contexte, quand est-ce qu'elle a été écrite, et dans le contexte, on trouve le but du livre. Le but du livre, ce n'est pas tout simplement une simple chronologie des faits que Luc nous rapporte, puisque certaines choses sont omises. Si ça a duré 30 ans, certaines choses sont omises dans les actes. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer à mesure qu'on va avancer, mais on peut facilement penser que ce n'est pas chronologique tel quel, puisque certaines omissions, en fait. Le livre des Actes nous passe sous silence certains faits, comme le voyage de Paul en Arabie. Si vous tournez dans Galates, chapitre 1, verset 17, et je vais vous en parler plus tard dans Actes des Apôtres, vous allez voir qu'en deux versets, il y a 7 ans de différence. En deux versets. Nous, on le lit de suite. On regarde, on dit, OK, Paul s'est converti. Paul était à Damas. En dessous de ça, Paul s'est rendu à Jérusalem. Non, non, non. Paul s'est rendu à Damas. Paul s'est en allé en Arabie. 7 ans après, Paul est revenu à Jérusalem. Dans Galates, chapitre 1, verset 17, Paul va dire que tout de suite après Damas, là, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Ce n'est pas en allée tout de suite à Jérusalem. On va regarder plus tard dans notre étude qu'est-ce que Paul a été faire en Arabie pendant tous ces temps-là. Donc, le livre, le but du livre, ce n'est pas de nous donner en détail tous les détails de la vie de Paul, chaque pas que Paul a fait ou que Pierre a fait ou qu'un autre apôtre a fait. Le but du livre, c'est de nous donner un cadre général, une information générale, comment s'est bâtie l'Église, comment l'Église a répondu à certains défis, comment ils ont réglé certains problèmes, et cela pour nous enrichir, vous et moi, en tant qu'Église, pour éviter aussi certains pièges, certains écueils. L'information des Actes des Apôtres devient très actuelle pour nous qui vivons dans l'Église de Dieu, dans des temps troubles, où il court dans les églises toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pensées. Et ce n'est pas défendu que les gens aient leurs pensées propres, mais on doit marcher avec coercition. On doit marcher d'un même pas. Et pour ça, il faut qu'il y ait une soumission mutuelle. Vous savez, quand je demande, moi, à des gens de m'aider des fois pour certaines choses, je fais certaines vérifications. Je fais certaines vérifications. Si je demande, à exemple, à quelqu'un de regarder ou de suivre quelqu'un d'autre, je vais regarder qu'est-ce qu'il pense de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la personne entende des sons discordants. Pas pour cacher des choses. Nos opinions personnelles sont personnelles. Ce qu'on enseigne, c'est la Bible. Nos opinions personnelles sur un sujet, c'est une opinion personnelle. Ce que la Bible nous dit doit primer sur nos opinions personnelles. Donc, le but du livre des Actes, c'est plus qu'une simple chronologie, c'est nous faire marcher d'un même pas et voir comment eux ont fait pour marcher d'un même pas. Parce que ce n'est pas toujours facile, soyons clairs. L'information ici sur les autres apôtres, mis à part dans le chapitre 1 et le verset 13, est presque occultée du livre des Actes des Apôtres. On n'entend à peu près pas parler. La grande majorité des Actes des Apôtres ne concernent pas les apôtres, concernent en partie Pierre, suivant ça Paul. Okay? En grande partie. Car le but du livre, ce n'est pas de nous faire voir la personnalité de chaque apôtre, qui était chaque apôtre, qu'est-ce qu'ils ont fait chaque apôtre. Mais le but du livre, c'est qu'on puisse voir, le but du livre est autre, c'est qu'on puisse voir le récit exact, non scientifique, là, mais exact du fonctionnement de l'Église primitive. Le but que Luc cherchait, ce n'était pas à faire un récit tout à fait chronologique, extrêmement exact. Paul a avancé le pied gauche pour embarquer dans la barque au lieu du pied droit. Ce n'est pas le but, là. Le but, c'est de donner un récit assez exact, là, mais comment l'Église primitive fonctionnait. La tâche dans le livre des Actes, c'est de présenter des événements historiques de manière à ce que le dessein de Dieu soit clairement exposé. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, toute mon entrée dans la matière va être faite aujourd'hui. Dans le livre des Actes des Apôtres, on peut retrouver certaines choses. Le livre a été écrit par Luc. On va regarder un peu qui était Luc. Si vous tournez dans vos Bibles, dans Marc, chapitre 3, versets 14 à 19, vous allez pouvoir vous rendre compte que Luc n'est pas un des 12 disciples. D'ailleurs, pas plus que Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Et ça, je vous en donnerai certaines explications. Le Marc que vous trouvez dans l'évangile de Marc, c'est le Jean-Marc que vous trouvez dans Actes des Apôtres. C'est lui, Jean surnommé Marc, qu'on va lire plus tard dans Actes. C'est lui qui a écrit Actes, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc sous la dictée de Pierre. D'accord? Regardez bien. Jésus nous dit dans Marc chapitre 3, versets 14 à 19, il en établit 12 par de ses disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre, c'est les deux qui voulaient faire brûler les Samaritains. André, Philippe, Barthélemy, pur étranger, on n'a jamais entendu parler de Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ici, si vous remarquez, c'est pas dur à remarquer, Marc n'est pas là et Luc n'est pas là. Et pourtant, Luc a écrit un évangile, Marc a écrit un évangile et Luc a écrit les Actes des Apôtres. L'un n'empêche pas l'autre et il va vous expliquer un peu pourquoi. Qui est Luc? Il est notoire que Luc a suivi Paul tout au long de son ministère jusqu'à la fin. Les Actes, d'ailleurs, nous le disent. Si vous tournez dans Colossiens, chapitre 4, verset 14, je ne vous lirai pas tout, 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 là, mais je vais vous lire certains endroits. Il y a plus d'endroits que ça. Dans Colossiens 4, 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc, il nous situe Luc. Il dit que c'est le médecin bien-aimé. Donc, qui était Luc? Luc était un Grec, instruit, médecin. Qui était Luc? On peut penser à cause de sa relation qu'il a eue avec Paul, avec Marc, avec les autres qu'il a rencontrés, qui connaissaient la plupart des apôtres, qui était un témoin de l'histoire évangélique. Luc était d'une culture grecque, d'une formation intellectuelle. C'était un médecin pour le temps. Donc, il était d'une formation intellectuelle. Tourné dans 2 Timothée, on va voir aussi la foi solide de cet homme-là. Vous irez lire le reste si vous voulez, mais dans 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 11, l'apôtre Paul va dire que tout le monde l'a abandonné, qu'il a laissé un à ta place. Il va dire, Luc seul est avec moi. Donc, Luc était un homme aussi solide de conviction. était un intellectuel versé dans la parole, avec une bonne connaissance de la parole, qui a suivi Paul, qui a écrit l'Évangile de Luc, qui a écrit Actes des Apôtres, mais pas sous sa propre pulsion. La parole de Dieu nous dit comment il le fait. Dans mon prologue maintenant, on va prendre les versets 1 à 5, même si probablement je n'aurai pas le temps de tous les faire. Je veux finir la présentation de Luc. On commence. Là, j'ai tout mis le cadre, je vous ai expliqué qui était qui, le but du livre, ainsi de suite. Maintenant, le chapitre 1, verset 1 nous dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, commence par rappeler à son destinataire, à qui le récit est adressé, à Théophile, il dit « Dans ma première lettre, si vous tournez dans son premier écrit, qui est l'Évangile de Luc, chapitre 1. Je me contenterai de vous lire les versets 1 à 4 du chapitre 1 de Luc. Regardez bien comment Luc s'y est pris. Et je ne vous donnerai pas le grec, puis ainsi de suite. Je vous ai dit que c'était un homme de culture grecque. C'était un homme de formation intellectuelle avec beaucoup de connaissances académiques. Et regardez de la façon dont il s'y est pris. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis. Parmi qui? Il s'inclut dedans, là. Il dit parmi nous. Donc, on peut facilement penser que Luc a assisté au ministère de Jésus. Il n'était pas un apôtre, mais a assisté au ministère. Des choses qui sont accomplies parmi nous. Okay? On peut facilement penser que Luc était au fait du ministère de Jésus. Donc, il ne parle pas comme de l'extérieur, mais on va voir sa formation intellectuelle. Même s'il y avait vu certaines choses, suivant, verset 2, ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus ministres de la parole. Donc, les témoins oculaires, mais les témoins oculaires qui sont devenus ministres de la parole, on s'entend bien. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, formation intello, formation intellectuelle, c'est pas défendu d'être intellectuel dans le Seigneur. C'est pas défendu de rechercher. Les gens de Béré vérifiaient les choses, eux aussi, ce que Paul disait. Tant qu'on reste dans le cadre de la parole. Je ne suis pas en train de dire à ceux qui étudient la médecine, étudiez votre médecine dans une Bible. Ne faites pas ça, je n'irai pas me faire soigner par vous. Soyons clairs. Je suis en train de dire, au niveau de la foi, cet homme-là avait une bonne formation intellectuelle, mais au niveau de la foi, il s'est doté d'une bonne formation spirituelle aussi. Il a fait des recherches exactes, spirituelles, sur toutes ces choses, depuis l'origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent, Théophile, afin le but de l'Évangile de Luc, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, Théophile. Donc, il rappelle dans Actes, le premier livre qu'il a écrit. Il l'avait écrit à qui? À Théophile. Théophile est le titre de excellent. C'était un dignitaire qui avait reçu la foi. Il disait, afin que je te les expose d'une manière suivie, par écrit, d'une manière suivie, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus au verset 4 qu'on vient de prendre. Le titre, comme je vous ai dit, excellent Théophile, démontre que cet homme-là détenait une position officielle. Et vous trouvez ça dans Actes chapitre 23, verset 26, où des gens ont le titre Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut. Excellent. C'était un titre qui s'accrochait avec une fonction comme gouverneur et ainsi de suite. Vous trouvez la même chose dans Actes chapitre 24, verset 23, très excellent Félix. Vous trouvez la même chose dans Actes chapitre 26, verset 25, où Paul va dire « Je ne suis point fou, très excellent Festus. » Donc, le titre ici que Luc applique à son destinataire de la lettre, ça veut dire que l'homme détenait une fonction, une haute fonction, soit au niveau gouvernemental, et ainsi de suite. Le terme Félix, ben, le nom Félix, je veux dire, nous montre que c'était probablement un gentil. Okay? Mais l'expression maintenant, excellent, elle était courante dans le grec aussi pour désigner un dignitaire. Donc, Théophile était un dignitaire qui fonctionnait, qui marchait dans la foi. D'accord? Là, je viens de terminer à quasi 10. Je viens de terminer un peu ce que je voulais vous donner ce soir et je vais vous avancer tout de même les 5 premiers versets. Okay? Le verset 2 qu'on a lu, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ce verset nous montre l'unité entre l'œuvre de Christ dans les évangiles et sa continuité dans le livre des Actes. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, donner ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, nous montre le lien entre les évangiles, les Actes, et ensuite ça, on va regarder avec les épîtres. Le verset 3, toujours du chapitre 1, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. » Donc, Jésus ne nous apparaît pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Pas... La parole de Dieu ne nous dit pas non. Pendant 40 jours, se montrant à eux, leur expliquant, leur parlant, concernant, les instruisant, concernant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le verset 3 nous donne encore plus une indication sur le but du livre des Actes des apôtres. Après la résurrection de Jésus, Jésus continue d'apparaître pendant 40 jours aux apôtres. Jésus avait deux buts à cela. Premier but, donner aux disciples une preuve de la résurrection, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pendant 40 jours. Deuxièmement, leur donner des instructions. Et ici, retenez bien ça, on va y revenir la semaine prochaine. Leur donner des instructions concernant le royaume de Dieu. Les versets 4 et 5, et je vais terminer. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On parle de la venue du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit qui est présenté comme une promesse à recevoir au même titre et de la même façon que le salut par la grâce. Comment vous avez reçu votre salut par la grâce? Est-ce que vous avez un certificat qui est tombé dans le ciel? Non. Comment vous l'avez reçu? Vous avez reçu votre salut par la foi. Le salut par grâce s'obtient par la grâce de Dieu, mais on la main spirituelle, si vous voulez, qui va quérir ce salut-là par la grâce, c'est la main de la foi. Ça se fait par la foi. Et le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit de la même façon. Être rempli de l'Esprit, C'est par la foi. C'est tout simplement par la foi. Ce n'est pas un acte autre qu'un acte. On fait confiance à Dieu parce que Dieu est le premier. Donc, ici, on a regardé les 5 premiers versets. Je vais m'arrêter ici. Et retenez bien ce que je vous ai dit à la fin. Deuxièmement, quand on a regardé pourquoi Élisée est apparu pendant 40 jours, j'ai dit deux choses. La première, preuve de résurrection. La deuxième, il s'entretenait avec eux concernant les choses du royaume. Nous dit le verset 3, la partie C du verset 3 nous dit « Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Et vous allez voir la semaine prochaine, fait étonnant, les disciples comme vous et moi, bien n'avaient pas tout compris, ont eu besoin que Dieu leur explique. Parce qu'ils vont poser une question qui est hors propos tout de suite après, qui est hors norme avec ce que Jésus leur a dit pendant 3 ans et demi. Et on va regarder ça la semaine prochaine. Donc, c'était mon entrée en matière où on a regardé un peu la structure du livre. On a mis un peu la charpente en place et à partir de la semaine prochaine, eh bien, par la grâce de Dieu, on va commencer à mettre des matériaux pour construire la maison, si on peut dire ça de cette façon-là. Donc, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va prendre toujours dans Actes chapitre 1, on va prendre les versets 6 à 8 et vous allez voir que les disciples, la première chose qu'ils vont poser, c'est une question identitaire, c'est une question nationaliste, c'est une question qui n'aurait pas dû être posée. On va regarder ça la semaine prochaine. On va prier. Merci Seigneur de cette opportunité, Seigneur, que j'ai eue, que nous avons eue, Seigneur, de regarder, Seigneur, ta parole ce soir. Certes, un livre bien différent que celui de l'Apocalypse, un livre tout enrichissant, tout aussi enrichissant. Un livre, Seigneur, qui donne une impulsion vers l'avant à l'Église. Ce livre, Seigneur, qui fait le pont un peu entre les 4 évangiles et les épîtres que nous trouvons après ce livre, se veut un livre, Seigneur, qui nous montre un peu cette vie-là que les disciples ont entrepris. Cette marche-là par la foi. Le coût de la marche, les bénédictions de la marche et aussi, Seigneur, le point central, Seigneur, de bâtir l'Église selon l'ordre que tu as donné, Seigneur, à ton Église. C'est toi, Seigneur, qui bâtis l'Église. Tu n'as pas laissé le soin à personne d'autre de la bâtir. Mais, Seigneur, on apporte notre contribution. Seigneur, tu nous permets d'amener quelques briques. Et, Seigneur, les actes des apôtres nous en donnent de bons exemples, ô Dieu. Seigneur, qu'on puisse bien méditer ta parole, Seigneur, cette semaine. Et que cette parole-là, Seigneur, puisse nous faire cheminer, Seigneur, dans notre partie prenante, Seigneur, pour l'Église, dans les actions que nous posons, Seigneur, pour le royaume. Et Seigneur, dans cette aventure-là, Seigneur, à laquelle tu nous as conviés de la marche par la foi, ô Dieu. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains, te demandant miséricorde sur eux, Seigneur, miséricorde sur moi. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta sagesse, de ton intelligence. Que ces grains-là qui sont plantés dans le sol de nos cœurs puissent pousser et donner du fruit, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On reprend le tout la semaine prochaine.